notre invité qui est un des piliers du cinéma français, des caméras de Truffaut à celle d'Alain René en passant par celle de Jean-Pierre Jeunet. Sa fougue tranquille et son incomparable voix ont marqué les grandes heures du 7e art. Il sait faire rire, il sait faire pleurer, il sait même faire pleurer de rire. Sur scène, l'intensité de son jeu n'a égal que son humilité lorsque le rideau tombe. André Dussollier est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour André Dussollier.
Bonjour à tous.
Bonjour
à toutes.
Bienvenue sur Europe 1.
Merci, c'est gentil de m'accueillir comme ça.
Vous êtes à l'affiche de la pièce Novecento, c'est une pièce qui vous tient à cœur, parce que vous l'avez déjà joué plusieurs fois, vous avez même eu un Molière pour cette pièce.
Oui, c'est une pièce qu'on a créée en 2014 et puis qu'on continue à jouer. C'est un monologue de Barreco, d'un auteur italien, et puis que je joue avec des musiciens.
Il y a quatre musiciens sur scène avec vous.
Oui, c'est ça. Et je ne pensais pas du tout que ça irait aussi loin, que ça nous entraînerait aussi loin. Mais enfin, c'est une pièce qui allie beaucoup de... Ça se passe sur un bateau. Et donc, on vit toute une traversée pendant 6 jours avec plein de choses qui se passent. Et des choses drôles, des choses émouvantes. Enfin, voilà, c'est le retour que j'en ai. Et donc, qui fait que j'ai envie de reprendre ça en direct avec le public chaque fois. Là, c'est à la Porte Saint-Martin.
Vous y jouez donc un pianiste qui, petit, a été abandonné sur le bateau, puis a été élevé par l'équipage sans jamais mettre les pieds sur la terre ferme. En fait, la plus grande chance de cet enfant, c'est de ne pas avoir le mal de mer, non?
Oui, exactement. D'ailleurs, on dit qu'il marche comme ça, vraiment, comme s'il n'y avait pas d'eau, comme s'il n'y avait pas de vagues. Enfin bon, il est tout à fait à l'aise et il ne descendra jamais de son bateau. Il n'a pas envie d'aller sur la terre ferme. Il n'a pas envie de se perdre au milieu de toutes ces rues. Il ne saurait pas où aller, quoi faire. Il est plus à l'aise avec les 88 notes de son piano où il a une grande liberté. Il entend la musique classique en Europe quand le bateau est là-bas ou bien quand il arrive aux États-Unis, il entend le jazz. Et voilà, c'est un autodidacte qui fait qu'il devient le plus grand pianiste au monde.
Votre personnage s'inspire des gens qu'il croise sur le bateau, André Dussollier, qui lui raconte des histoires. Et vous aimez qu'on vous raconte des histoires? Vous aimez qu'on vous mène en bateau? Ça vous arrive?
Ah oui, j'adore ça. Je suis très crédule. Hein. j'aime beaucoup. Un peu naïf, un peu même.
Ah bon
oui, je ne vais pas dire d'autres mots, mais enfin, vraiment, j'aime bien.
La dernière fois qu'on vous a mené en bateau, André Dussollier?
Je m'en souviens pas, mais c'est peut-être il y a 2 minutes encore, ouais, quand on m'a dit...
Asseyez-vous à côté du plus beau.
Ah, c'est ça.
Oui, Jean-Philippe Vizini a dit asseyez-vous à côté du plus beau, et vous l'avez regardé en pensant qu'il était beau, c'est ça?
Oui,
mais il a très bon goût, c'est quelqu'un qui a...
Ouais.
Bien sûr. Qu'est-ce qui nous arrive, André?
C'est évident, quoi, non. Alors, je vois bien toutes les dames qui
sont folles de moi.
En tout cas,
je vais vous embaucher comme vous allez être mon coach. Je vous embauche.
Quand on vous a annoncé votre venue, André Dussollier, les femmes se sont pâmées quand même.
Ouais, les femmes du public. Ouais. Elles sont
pas aussi belles d'habitude. Hein.
On se connaît depuis longtemps. C'est ma famille.
Vous êtes conscient de l'effet que vous faites aux femmes?
Non, non.
L'humilité.
Oui. Remettez vos culottes, mesdames.
Non, j'ai pensé que c'était mon voisin qui faisait que...
Ah non, moi, j'ai aucune emprise sur elle. C'est
bon.
Ah oui, vraiment.
Mais pourtant, vous avez créé des liens, quand même. On sent bien, quand même, depuis un certain temps.
Des liens de sympathie, mais pas de séduction, c'est pas pareil.
Oui, j'ai jamais conclu avec Gisèle, encore. Moi,
un comédien, André Dussollier, ça raconte des histoires, et une star, ça fait des histoires?
Ah, joli, belle différence. Bah, je ne sais pas ce que fait une star, mais un comédien, oui, je préfère cette définition-là. J'aime bien, en effet.
Vous êtes très sérieux sur les tournages et vous savez vos textes.
Ah, bah oui, c'est la moindre des choses.
Non, mais vous êtes très consciencieux.
Oui.
On m'a dit que vous répétez après.
Oui, ça arrive, quelquefois, oui. C'est la première fois.
La scène est tournée, vous continuez de la répéter après.
Oui, puis ça va tellement vite, le cinéma. Je me dis, mais il ne peut pas être content quand même, parce que j'ai bien fait ça, bien fait ci, donc je me répétais la scène.
Vous êtes très perfectionniste.
Oui, ça passe si vite. Donc, alors le théâtre, c'est bien parce qu'au moins on peut renouveler l'expérience chaque soir et on peut améliorer encore des choses. Non, mais c'est ça qui est excitant, c'est que ce soit le mieux possible, quoi, évidemment.
Alors la pièce Novecento se passe dans les années 20, que l'on disait folle. Vous auriez aimé vivre à cette époque ou est-ce que vous préférez notre époque, les années très très folles, les années sécu, chômage, retraite?
Ah, toutes les époques ont leur agrément et leur plaisir, même les plus difficiles. Mais c'est vrai que je suis né dans une époque, je n'avais pas la conscience que c'était les années déjà, les glorieuses, enfin les 30 glorieuses. Et donc, mais les années folles, ça devait être pas mal. Parce qu'en effet, là, sur ce bateau, il y a les premières, les secondes, les troisièmes classes. Et c'était aussi riche et aussi excitant d'être dans les premières où il y avait les orchestres, etc., que de rencontrer les gens des troisièmes classes. Enfin, on sent que sur ce bateau, il y a de la vie. C'est ça l'essentiel.
Ça fait longtemps que vous jouez cette pièce, elle a toujours autant de succès. Vous pensez que le public se projette dans la vie de cet homme? Qu'il y a quelque chose en nous qui nous empêche de descendre de notre bateau pour partir à la rencontre de l'autre?
Oui, Enfin, aller à la rencontre de l'autre, non, parce que lui, il rencontre plein de gens sur ce bateau. Mais en tout cas, descendre à terre, ce serait pour lui se perdre un peu, s'émietter, faire la compétition avec les autres. Tandis que rester fidèle à lui-même, c'est un peu ça la fable de Barricot. C'est quelque chose qui plaît à tous, parce qu'on a l'impression au moins de pas se trahir et d'aller le plus loin possible.
C'est quoi vos premiers mots quand vous rentrez en scène, André Dussolier, dans Novecento?
Comment vous dire? Ça commence comme ça.
C'est vrai?
Oui.
Comment vous dire?
Comment vous dire? Oui,
Après, ça présage.
Ah, après. Le présentateur sur le bateau, il y en a toujours un quand même qui est là pour présenter l'orchestre et qui dit là, les gentlemen, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce navire. Cette cathédrale flottante, cet hôtel insubmersible, ce paquebot géant qui n'est pas que beau. Voilà, et après ça continue comme ça avec des jeux de mots de Stéphane de Groot et c'est pendant 3 minutes
Stéphane de Groot qui a contribué à écrire l'adaptation française,
une partie, oui, parce qu'il y avait cette présentation là sur le bateau avec les gens qui font des jeux de mots comme ça un peu alors que l'orchestre attend d'être présenté, et donc ça donne du dynamisme au spectacle dès le départ et ça fait rire et c'est ça qui est bien.
Alors, André Dussolier, votre père était percepteur, il prélevait les impôts. Votre mère était inspectrice des impôts. Oula. Vos parents n'avaient pas d'amis.
On va se passer. si, énormément d'amis. Parce que, évidemment, il y avait quelques enfants qui ne comprenaient pas très bien percepteur et qui disaient c'est le persécuteur. Bon, mais pas du tout, parce qu'il ne récoltait pas seulement les impôts, il délivrait aussi des pensions, les permis de chasse. Donc, c'était vraiment sympathique parce que c'était dans un petit village et les gens ne pouvaient pas venir les jours de la semaine. Donc, la perception était ouverte même le dimanche. Donc, il nous remercie en mettant des œufs sur le bord de la fenêtre. Enfin, non, c'est
du coup, vous pouvez nous expliquer le prélèvement à la source?
Ah oui, alors non, j'ai un blocage avec les chiffres, hein, je vous préviens tout de suite. Évidemment, j'entendais parler que de ça, donc je suis allé me réfugier dans les lettres.
Vous dites vos parents parlaient trop de chiffres, j'ai eu envie de m'évader dans les lettres?
Un peu, et dans la rêverie, et dans le sport, et dans autre chose en tout cas. Ouais.
Quand vous avez quitté le domicile familial, vous êtes senti comme un évadé fiscal?
Évadé un peu, mais fiscal non, parce que vraiment, ils ont continué à s'occuper de mes impôts et de mes parents. Et
c'est pour leur faire plaisir que vous aviez additionné les films, multiplié les pièces de théâtre.
Non, c'est pour me faire plaisir à moi, vraiment. Mais quand je suis parti, non, j'avais vraiment envie de vivre cette passion à fond. Et puis eux, ils avaient des échos un peu par les personnes, leurs amis, quoi, voilà.
Alors, n'empêche que c'était pratique pour déclarer vos impôts. Si vous aviez une question, on a tous des questions à poser aux impôts. Vos parents pouvaient vous renseigner rapidement, sauf s'ils n'étaient pas disponibles de 10h à midi et de 14h à 15h. Avec une permanence téléphonique de 8h à 8h15, c'est ça?
Non, ils continuaient à en parler à midi à table. Non, j'en pouvais plus.
Ah, c'est vrai?
Ils étaient passionnés.
Ils parlaient que de chiffres, P3, P4, etc. Ben, évidemment, ils faisaient le même métier, ils travaillaient dans le même bureau. Donc, évidemment, je baignais là-dedans.
Et vous étiez bon en maths ou pas?
Oui, le calcul mental, j'aimais bien ça parce que ma mère était assez vive, donc sur ce plan-là, donc enfin sur tous les plans, mais sur le plan-là.
Vous avez déjà eu un contrôle fiscal du étalage. Coup
Oui, j'ai eu un contrôle
fiscal. Ah bon?
Oui, j'ai eu un contrôle
mais
fiscal.
Mais vous avez pu attendrir en disant que...
Rien du tout, mon père est venu à la rescousse, il est monté de sa province pour m'aider parce que j'avais gagné un prix et il y avait une somme d'argent et bon, on avait oublié de la déclarer.
Bien donc, sûr,
c'est un prix.
C'est vrai, les gains à des jeux normalement ne sont pas imposables.
C'est un prix.
Ouais. Et alors, votre père est venu vous aider ?
Il est venu, mais ça a duré longtemps. Hein. C'est-à-dire que c'est là que je me suis aperçu quand même que les impôts, ils avaient des attachés de presse, des dossiers de presse absolument énormes.
Et des balances.
Tout de ma vie.
Vous savez tout de votre vie ?
Tout.
Et alors ?
Ça a duré longtemps, on a fait connaissance, et puis finalement, il n'y a pas eu de redressement.
Ah. Et vous avez eu des parents réservés, André Dussolier, avec qui il fallait être réservé. Ça marche d'être discret quand on est comédien ? Parce que vous dites que vous avez toujours refusé de courir les cocktails, d'aller flatter les gens.
Oui, ça doit venir un petit peu de cette nature-là. Mais en fait, j'ai souvent constaté ça chez les comédiens. C'était plutôt des gens timides et qui s'extériorisent quand ils sont en scène avec des rôles. C'est un petit peu le principe. J'ai l'impression que c'est une constante, quoi, que j'ai remarqué. Mais j'aime bien les autres, hein. J'aime bien les réunions, mais pas forcément...
Vous n'aimez pas courir les cocktails ?
Pas trop.
Non ?
Non, pas trop. J'aime pas le champagne.
Ah bon ?
Non, moi non plus.
On vous imagine mal faire des caprices de star, André Dussolier ? C'est quelque chose que vous tolérez chez vos collègues ou qui vous agace ?
Ça m'amuse.
Ah oui ?
Oui, je sais pas. D'ailleurs, je sais pas quel genre de caprice, c'est...
Là, vous avez quand même demandé un verre d'eau. Hein.
Oui, c'est vrai, limite, c'est énorme.
Dans un gobelet en plastique.
Ouais, je l'économise.
Je refuse rien du Solier. Hein.
En tant que fils de percepteur, je n'ai pas encore tout bu. Hein,
vous dites, André Dussolier, que chez vous, la comédie ce n'est pas un don, mais une seconde nature. Vous montez beaucoup dans la vraie vie?
Non. Non, je suis beaucoup guéri de ça, mais au début, je pense, en effet, quand j'étais jeune, que le mensonge a été une échappatoire. Sûrement, je m'adaptais
à ce qu'on attendait de vous.
Oui, je pense.
Et après, vous avez menti aux femmes, aux journalistes?
Non. Ah non, parce que. Non. Moi, j'adore la vérité. Hein. J'aime beaucoup la vérité. Ça soulage. C'est bien de dire la vérité.
Vous pouvez mentir aux humoristes qui vous reçoivent sur Europe 1, aux femmes humoristes. Si vous me dites avec votre voix, Anne, vous êtes charmante, je peux vous croire sur parole.
Oui, mais tout le monde peut mentir. Aussi, je me méfie de ce que vous allez me dire là, sur la
phrase. Alors dites-moi, Anne, vous êtes charmante. C'est pour mes archives personnelles.
Anne, il n'y a plus personne. Je peux vous le dire franchement. Vous êtes charmante.
Quel comédien ! Quel comédien !
J'adore
le César du meilleur acteur. L'unanimité. Il n'y a pas eu besoin de voter.
Ah, magnifique. On y a cru.
Non, mais moi, la prochaine fois que j'ai un coup de mou, je m'en repasse votre voix. Refaites-le-moi encore une fois.
Se susurrer, chuchoter, magnifique.
Ah, oui.
Anne, charmante, vous êtes. Je peux vous le dire un peu comme ça, en mélangeant. Oui.
Ah, oui, faites des variantes, ça va.
Oui.
Vous avez été dans Tanguy, de Thierry Châtillès. Et il y a le retour de Tanguy qui a été tourné.
Oui, pourtant, il était loin. Il était en Chine, à 10 000 km.
Et là, il revient.
Il sonne à la porte. Il y a un problème. On était bien, on était tranquille. Et puis, bon, voilà, il arrive. Avec des bonnes raisons, évidemment. Bon, mais... On l'avait mis loin, on était content, puis il était avec ses proverbes, il revient, ça y est, on a fait la cata.
Votre femme va rechoper le hockey dans le film?
Hein?
Parce que dans le film, dès que Tanguy parlait, il y a votre femme, je me souviens, elle avait un petit tic.
Oui. Bah avec l'âge, ça s'est accentué. Hein. Chez elle et chez moi aussi. Hein.
De comédie, André Dussolier?
Non, j'ai fait un remplacement rapidement comme ça pour chez un professeur qui s'appelait Périmoni, chez qui j'avais commencé. Mais non, ça m'a pas trop tenté. J'ai toujours. Mais c'est comme un enfant un peu qui a envie de goûter tous les plats qu'on lui propose et qui a pas beaucoup qui arrive pas à se poser, quoi. Donc, du coup, les cours, c'est beau, c'est un bel échange, mais ça, il faut prendre le temps.
Et vos enfants vous demandent des conseils?
Non.
Non.
De temps en temps, ça vient un peu comme ça, de façon marginale, mais pas vraiment, pas direct. Ils ont envie de faire leur chemin. Puis moi, j'ai l'impression d'être déconnecté par rapport au monde aujourd'hui. Et voilà, c'est plus les mêmes repères, les mêmes manières de procéder. Je pense que les jeunes aujourd'hui, chacun vit avec sa génération. Donc je leur dis, mais mettez en scène, écrivez, rencontrez des gens avec qui vous pouvez créer des spectacles. Voilà, ne pas être seulement dans l'attente et la posture du comédien.
Et vous avez déjà été dans l'attente du comédien, André?
Oui, bien sûr. Bah oui. Mais
3 jours.
Non, mais les choses, je sais pas, se sont enchaînées, voilà, par chance ou par. Et puis il y avait toujours un rôle que j'avais envie de faire, voilà.
Ben Mach a des choses à vous dire, André Dussolier.
Oui, Anne, c'est un cadeau ce midi de recevoir André Dussolier. Quelle carrière immense pour réaliser ce portrait ce midi. Bah, j'ai commencé par compter le nombre de vos films dans lesquels vous avez joué depuis 1972 et bah beaucoup trop. Hein, j'étais à peine arrivé à la fin des années 80, j'ai fait un AVC. J'y arrivais plus. La filmographie d'André Dussolier, c'est l'annuaire du cinéma français. 118-218. Truffaut, Romère, Lelouch, Sautet, sans oublier bien sûr, on a parlé vos 7 longs métrages avec Alain René. André Dussolier, en fait, si demain on devait créer l'équivalent de la Pléiade, mais pour le cinéma français, vous squatteriez absolument tous les bouquins. Et si on faisait pareil avec les castings ratés, je squatterais tous les bouquins. Moi, c'est avec votre rôle dans Tanguy que je vous ai découvert chez André Dussolier, un film que j'ai vu très jeune et qui m'a offert 2 résolutions. La première, je ne veux pas devenir Tanguy. La deuxième, je veux devenir André Dussolier. Alors, vous l'avez compris, le jeune comédien que je suis regarde avec émerveillement l'immense acteur que vous êtes, mais petit bémol, le jeune homme que je suis regarde avec jalousie l'ancien compagnon d'Isabelle Adjani, que vous êtes aussi. En effet, monsieur Dussolier, dans cette émission, j'ai pris l'habitude de vaguement m'illustrer autant par mes phases textuelles que par mes phrases sexuelles. Je ne pouvais donc pas omettre cette jolie parenthèse de votre vie qui a immédiatement sollicité mon aigreur. J'aime mon métier, hein, mais un simple regard d'Adjani, moi je l'échange même contre 3 Césars. Dans votre cas, pas besoin. Oui, parce que monsieur Dussolier, il les a aussi, les 3 Césars. Et avec ceci, un Molière, en vous remerciant. Alors pardon, j'ai bien conscience qu'aborder un pan de votre vie privée ce midi, c'est faire injure à votre légendaire discrétion. André Dussolier, ouais, c'est pas un people, adepte des vernissages et autres tapis rouges. Non, monsieur Dussolier, c'est un besogneux, à la classe folle, qui ne prend la lumière seulement quand le rideau s'ouvre. Merci de m'avoir écouté.
C'est beau. classe.
Non, quand même.
Moi, quand j'étais petite, je vous ai tellement adoré dans Un ours pas comme les autres.
Ah, c'est vrai ?
Oui.
Ah, oh, ça me fait plaisir que vous parliez de ça. Parce
nous, on ne connaît pas, évidemment. On est trop jeunes.
Ah, non, Un ours pas comme les autres, c'était une belle série de Nina Companese. Et, ah oui, oui, c'était, j'adorais ce personnage. Et en plus, c'était bien, ça venait à un bon moment parce que j'ai commencé au cinéma avec Truffaut dans Une belle fille comme moi. Et c'était l'époque où il y avait De Niro, tout ça, tous ces acteurs qui se métamorphosaient d'un rôle à l'autre. Et dans ce rôle, avec, pour Truffaut, le film de Truffaut, j'avais des lunettes, des gants jaunes. Et donc, j'avais l'impression quand même que dans la vie, tous les metteurs en scène qui me rencontraient s'attendaient à voir un gars avec des lunettes et des gants jaunes. Et donc, du coup, Lina Companese, dans Un ours pas comme les autres, m'a donné des rôles que je jouais.
Le séducteur, oui, sympathique, voilà, et
ouais,
drôle.
Sympathique et drôle, comédie. Vraiment bien. Ouais, c'était... Ah, c'est... Ah bah moi, ça n'existe plus, ça a disparu, ça. Un ours pas comme les autres, c'est impossible de remettre la main dessus.
Ah bon ?
Ben non, je...
Moi, ça me dit rien, moi.
Ah oui, bah oui, mais oui, mais...
Ah, mais moi, j'adorais cette série. André Dussolier, vous avez des projets de tournage ?
Oui.
Ben ça, c'est développé, hein, n'en dites pas plus. Hein.
En général, c'est secret,
toujours très discret.
C'est secret
sur
ou
les
on peut
bah,
en
oui,
parler ?
Parce que la propriété du cinéma aujourd'hui, c'est... Il y a beaucoup de projets... Mm. Mais après, il faut attendre qu'il se finance. Donc, du coup, tant que c'est pas financé, mais enfin, normalement, je dois tourner bientôt avec Jérôme Commandeur dans une comédie, avec des enfants d'ailleurs, enfin des adolescents, on va dire. Et puis, non, il y a d'autres projets aussi, oui.
Vous êtes heureux que la jeune génération fasse appel à vous, comme Cairon dans Mauvaise Herbe, où vous avez joué avec Catherine Deneuve.
Oui, j'adore parce que c'est ça, oui, c'est d'être. Vous me parlez d'un ours pas comme les autres, alors tout d'un coup, et c'est vrai, c'est la jeune génération peut avoir vu des films ici ou là et vous engager pour jouer un rôle. Cairon, c'était vraiment une belle aventure parce que, voilà, cette histoire de, sur les banlieues et sur un éducateur et sur ses méthodes, en opposition à ses méthodes à lui, très drôle. Donc, du coup, ouais, c'était. Et puis l'occasion aussi de retrouver Catherine Deneuve, que je n'avais pas vue depuis Fréquence Meurtre.
Oula!
Ça vous dit rien.
Si, je l'ai vu en plus.
Si,
je l'ai vu, bien
ça
sûr.
Passait à la radio.
Elle jouait une animatrice sur une radio FM. Vous croyez pas, j'ai de la culture.
Ah hein. Oui.
Attends, j'ai grandi en France.
On dirait pas comme ça. Hein.
Léa Landau a des questions à vous poser, André Dussolier.
Oui, André Dussolier, dans Novecento, donc vous faites du piano, dans Ça fait du bien, vous ne faites rien d'autre que de répondre aux questions. Alors j'en profite puisque je vous ai préparé une interview de pianiste à pianiste. J'ai pris des citations des pianistes les plus célèbres au monde depuis très longtemps et je vais voir si elles vous correspondent, André Dussolier.
Jingle.
Alors, Ludwig van Beethoven disait « Seuls les cœurs purs font de la bonne soupe ». Êtes-vous un cœur pur, André Dussolier ?
Ah oui, mais alors la soupe, je déteste.
C'est vrai ?
Ah oui.
Vous n'aimez pas la manger ou la faire ?
J'aime pas ni la faire ni la manger, enfin la manger surtout.
D'accord, un autre de Beethoven qui aurait aussi pu être une phrase d'Anne Romanoff. Beethoven disait « Ce qui compte dans l'effort, c'est avant tout l'action plutôt que le résultat ». Vous êtes d'accord avec ça ?
Ah oui, complètement d'accord. Ah ouais ? Oui. Surtout que lui, franchement, quand il a commencé, enfin il a écrit même la 9e, il était sourd, et qu'il s'est donné un mal de chien vraiment pour arriver au bout, et qu'il avait des instruments incroyables pour entendre les notes qu'il n'entendait pas. Enfin bon, bref, je passe les détails, mais c'est une aventure. Là, il était vraiment dans l'action, oui.
Alors, on change de pianiste, André Dussolier. Donc Mozart qui disait « Pour vous plaire, je vous sacrifierais volontiers mon bonheur, ma santé, ma vie ». Vous seriez capable de ça par amour, André Dussolier ?
Aïe ! Ah oui, oh là là ! Pour
ça
vous
veut
plaire,
dire non, ça veut dire
que,
non.
Oui, parce que je plaire, c'est pas beaucoup, quoi. Ouais. C'est...
Juste pour séduire, lui, alors il fait passer son bonheur, sa santé, sa vie après l'autre.
Ah oui.
C'est
plus pragmatique.
Ils étaient drôles quand même, les pianistes de l'époque. Voici le suivant. Richard Wagner, qui a dit « Il importe peu de descendre du singe, l'essentiel est de ne pas y remonter ». Ça vous arrive de trouver des gens bêtes, André Dussolier ?
Ben moi-même, je le suis. Hein. Quand je suis confronté à ma bêtise, ça m'attriste. Mais bon, ça peut arriver, oui.
Alors voici un autre pianiste très célèbre. C'est Pascal Obispo qui a dit « C'est pas marqué dans les livres, mais le plus important à vivre, c'est de vivre au jour le jour. » Et vous êtes du genre à vivre au jour le jour,
oui,
André
Dussolier ? Oui, j'aime bien ça. Ouais. Oui, Lucie, là, oui, cette chanson, en effet, qu'il a écrite, que j'ai chantée longtemps, à répéter comme ça, sans arrêt, ses paroles et cette chanson, tout seul chez moi, ne vous inquiétez pas. Donc, profitez de la vie. Moi, je me suis toujours pris un petit peu, ou du moins, je me suis projeté dans l'existence des papillons, un peu éphémères, qui naissent le matin, qui meurent le soir et qui profitent et qui butinent comme ça.
Ça, c'est un truc pour dire aux femmes, je veux pas m'investir.
Mmh. Ah, c'est vrai.
On vous l'a fait le coup du papillon.
On l'a fait le coup de la fois. Papillon, allez, retourne butiner.
Non, rien à voir, je pensais pas à ça du tout.
Non, c'est grillé, faut trouver autre chose.
Vous pensez au côté éphémère des choses et que ça passe vite, c'est ça?
Oui, de profiter de la vie, c'est-à-dire que j'ai un peu de la mémoire, mais enfin, ça dépend, hein, sauf pour le texte à 20h seulement, mais le reste, la mémoire, j'aime bien la vie qui recommence chaque jour, quoi, et qui fait que c'est une aventure. Ça peut être une aventure aussi avec la même personne, Anne, charmante.
Elle n'y croit plus. Elle est... Tiens, bah pour finir, alors, une question, on reste dans le piano. Un conseil pour les femmes de 50 ans qui voudraient avoir une touche?
J'adore les femmes de 50 ans. Mais bah oui, bien sûr, parce que tout d'un coup, j'ai l'impression d'avoir le même âge qu'elle.
Merci André Dussolier.
Elle est auteure de son one woman show bio et barge tofu la semaine. Morito le week-end, on raconte son quotidien de green girl. Lui, il a une double vie, il est graphiste et humoriste, comme l'indique le titre de son spectacle, C'est compliqué. Un dialogue survitaminé entre sa psy où il amuse nos grandes et petites addictions. Il joue au théâtre Le Bout à Paris. Applaudissements pour Stéphanie Jarroux et Fabrice Petugne.
Merci beaucoup.
Merci. Merci. Alors, tous les deux, personne ne vous connaît.
Mais non. Comment ça se fait?
Mais grâce à cette émission, ça va changer.
Ah bah oui. Vous avez MPC, là. Même pas connu.
Vous avez commencé il n'y a pas très longtemps. Alors vous, Stéphanie Jarroux, vous avez été dans le journalisme, dans la communication. Et vous avez quitté votre boulot il y a 5 ans, c'est ça?
Il y a 4 ans.
4 ans, vous avez senti l'appel du large?
Oui, l'appel du grand large, surtout. Ouais. Ouais, j'avais bouclé des boucles, 15 ans de vie professionnelle.
3 enfants.
Ouais. Un mari qui est toujours le même. Ouais. Peut-être ça va changer, on ne sait pas.
Et qui s'occupe si des enfants. Vous avez pris le large.
Ouais, alors là, il s'occupe des enfants pour de vrai, parce que je remonte du sud, remonte des vacances pour être avec vous ce matin.
Oh, ça fait plaisir. Vous étiez où en vacances?
Dans le Vaucluse. Ça se voit, non?
Ouais. Ah, vous êtes très bronzé, oui.
Très bronzé, oui.
Et alors vous, Fabrice Petit-Huguenin, vous êtes graphiste toujours?
Ah bah moi, oui, j'ai une double vie en fait. Et là, pour l'instant, normalement, j'ai des clients qui m'envoient des messages pour savoir où j'en suis et ils savent pas que je suis avec vous. D'enregistrer une émission de radio.
Vous avez carrément, c'est encore plus frais, c'est il y a un an que vous avez arrêté votre métier de graphiste.
Mais j'ai pas arrêté.
Ah, mais continue.
Je vous dis, là, j'en ai 12.
Bah oui, il faut gagner sa vie.
Des textos, je gagne ma vie, ouais. Donc, mais c'est, par contre, ça fait un an que j'ai écrit un spectacle et que je le joue dans une petite salle à Paris, Théâtre Le Bout.
Vous voulez pas faire un duo de voix avec Christine Béroux, tous les deux?
Pourquoi? J'ai une petite voix de canard.
Ouais, vous avez une petite voix.
Et on me le dit souvent.
Et alors, ça marche bien, tous les deux, ça marche très bien. Alors, vous avez un thème récurrent tous les deux dans vos spectacles, vous êtes très passionnés par la planète.
Moi, le bio du corps, plutôt. Tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on se met dans le corps, et on s'en met des trucs. On est très accessoirisé quand on est une green girl.
Voilà, green girl, ça veut dire motivée par l'écologie, c'est ça?
Motivée par le bio au sens large du mot, c'est-à-dire l'éducation, le sexe, l'alimentation, la santé.
Le sexe bio, c'est quoi?
Il y a
le sexe,
des préservatifs bio?
Non, c'est du sexe, c'est un mode de sexualité un petit peu différent.
Ah, le tantrisme?
Le tantrisme.
Vous faites ça?
Ouais, ouais, c'est du sexe à distance.
Ouais. Ouais, moi, je fais ça tous les jours, mais ils sont pas au courant.
Mais au bout d'un moment, ceci dit, hein, le sexe à distance, au bout d'un moment, tu sens qu'il manque un truc. Hein.
Ah bah, quand même, ouais.
Comment
c'est
on
sûr.
Fait le cul en wifi là? Comment ça se passe?
Tu touches pas la personne?
Tu touches pas.
Mais comment elle sait ce que tu fais?
Que bah, tu imagines, tu visualises.
En silence?
Ouais, en silence.
On t'envoie un fax.
C'est ça. Ouais.
Coucou. Ouais. Et Stéphanie Jarroux, alors le sexe tantrique, vous avez redécouvert votre sexualité, c'est vrai?
Bah, oui, après 3 grossesses, on se dit, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans ma sexualité? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon couple? C'est vrai. Donc on réessaye des choses. Moi, j'ai même fait des stages où on décore sa foufoune avec des fleurs.
Ah, pardon.
Ouais. Tout mais, ça, c'est pour
des
honorer
vraies fleurs.
Des vraies fleurs. Ouais.
Ah oui.
Et après, on se prend en photo avec.
Ah oui.
Alors, c'est assez compliqué cette histoire, hein, parce que on est très peu de nanas, le cul à l'air, comme ça, à déambuler dans des petites salles sombres, à la recherche de la fleur qui correspond à son propre design pubien. Donc c'est un petit peu complexe. Hein.
Ouais. Léa Landau, ça serait une plante carnivore.
Quoi. Ben, c'est moi, clair. C'est chardon. Moi.
Et moi, j'ai des capotes au Roundup. Si
ça fait mal, ça.
Non, mais moi, j'avais jamais pensé au sexe tantrique. Tu sais, quand tu cherches des excuses après des années de couple et tu dis j'ai mal à la tête, alors que si tu lui dis non, mais là, je viens de te faire l'amour, tu t'en es pas rendu compte. Ah, oui. C'est pas mal, c'est
pourquoi
mieux.
Pourquoi tu me regardes? Moi, j'ai une sexualité très épanouie. Hein,
ouais, je sais, Christine.
Alors Fabrice Petit-Huguenin, vous parlez des addictions dans votre spectacle ?
Oui, tout à fait, André Romanoff. J'adore être en radio et dire les noms et prénoms. C'est vraiment la classe. Là, je peux mourir demain.
Addiction de quel type ?
En fait, l'idée, c'est que je vois un psy, toujours, depuis une quinzaine d'années. Donc, et je me rends compte, là, qu'en définitive, je suis accro à ma psy, finalement. C'est la vraie addiction. Et qu'une addiction est un petit mécanisme que le cerveau met en place pour compenser des manques, des choses, des douleurs, des choses. Et qu'une addiction, souvent, en remplace une autre. Donc, on arrête quelque chose et hop, on compense par autre chose. Donc, on arrête de fumer, on va au sport 15 fois par jour. Puis après, on arrête en se disant, je vais me calmer. Puis après, on devient accro au boulot parce que voilà, on veut réussir. Après, Donc voilà, je parle de plein d'addictions comme ça. Bon, après, notamment la cyberaddiction, un peu les films un peu... coquin.
On peut être addict à la pornographie.
Ah, mais carrément, mais évidemment.
Ah bon ?
Oui. Oh bah je confirme. Du coup, j'en ai écrit une petite chanson qui s'appelle Je mate des boulards. Mais c'est comme une chanson de
c'est
Walt Disney.
Entraînez-nous.
Je mate des boulards, je mate des boulards, je mate des boulards du matin au soir. Je mate des boulards, je mate des boulards. C'est pas le paradis, c'est un vrai cauchemar. Il mate des boulards, mate des boulards, mate des boulards du matin au soir.
C'est une comédie musicale.
Un peu le livre de la jungle.
Alors, Stéphanie Jaroux, vous parlez de vos cheveux aussi.
En fait, j'ai des cheveux qui ressemblent un peu à rien. Mais finalement, ça m'arrange parce que comme je viens de Versailles, rapidement, on me compare à quelqu'un.
C'est vrai.
Ah, Stéphane Bern ?
Pas du tout.
Non, un roi.
Bah, Louis XIV.
Bien sûr.
Carrément.
On a une coupe très Louis XIV.
Exactement, ouais. J'ai une coupe Louis XIV.
Ouais. Pas mal.
C'est pas royal, ça ?
Entre Louis XIV et Jean-Pierre Papin, je dirais.
Oh non. C'est attends, c'est parce que j'ai
derrière.
Le casque,
ouais,
là.
C'est le casque,
non.
Mais ce qui est drôle avec vous, c'est que donc, vos filles se mettent un peu au mode de tout ce que vous pratiquez.
J'espère qu'elles ne se mettent pas au mode sextantrique, quand
non,
même.
Parce qu'elles ont, mais parfois, elles vous font un peu honte, genre dans une pharmacie, une fois.
Elles me font souvent honte. Effectivement, une fois, j'étais dans une pharmacie à Versailles, donc là où j'habite, une pharmacie surbondée un mercredi soir à 18h37. Et là, il y a une vieille grand-mère assise qui se plaint de démangeaisons anales. Voilà.
Ah ouais.
Donc ça intéresse tout de suite mes filles, surtout la première qui me dit « Ouais, anale, est-ce que c'est un rapport avec anus ?» Ben, je dis bien, Diane, au moins tu sais de quoi on parle. Très très bien. Et la deuxième qui dit bah, anus, est-ce que c'est le mot scientifique pour dire trou de balle ? Tout à fait. Tout ça tout fort, bien sûr. Donc les gens me regardaient comme si j'étais une mère-fille, une junkie.
Une mère scientifique.
Exactement. Et puis finalement, la grand-mère se plaignait, c'est pas une vie d'avoir des démangeaisons comme ça, c'est pas une vie. Et puis ma dernière qui arrive et qui dit bah, pourquoi tu as des poupous dans le cucu ? Voilà.
C'est très chou.
Oui. C'est chou. Quand ça arrive 150 fois par jour, ça devient moins chou quand même.
Fabrice Petit-Huguenin, vous parlez de Naturalia dans votre spectacle ?
Oui, André Romanoff, tout à fait. En fait, moi, je ne parle pas de bio, mais comme une addiction en enchaîne une autre, je raconte qu'à un moment, j'ai une peine de cœur et que je surcompense en grignotant, en mangeant, en bouffant et tout ça. Mais voilà, comme je suis un peu...
Mais bio.
Bobo, je mange mais bio. Alors, elle est à la caisse. Tip, tip, tip. Est-ce que je vous mets du pain ? Ah, il me reste pas grand-chose. Là, il me reste du pain et chêne au seigle, du sésame pain. Bon, ça, c'est notre pain en hommage à la France Galles. Et du pain 38 céréales au poids. Ah oui, je peux vous faire une grosse tranche. Hein, ça fera dans les 12 euros. Oui, la tranche, oui, tout à fait. Est-ce que vous avez la carte Naturalia ? Ah ben ça, je peux vous la faire. Ça prend 2 secondes. Hein. Oh, c'est sans engagement. Ah non, je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Peut-être cumuler des points. Oui, il y a du monde, ils attendront. Je suis désolée, moi je suis sous-staffée aujourd'hui. Je suis plus que l'encaisse. Oui, madame, je sais. Mais ça n'est pas en m'insultant que ça ira plus vite. Oui, non, mais je vous assure, monsieur, il y a des jours, je regrette d'être partie de ces pylônes. Ces pylônes, les clients, ils étaient gentils. Ils avaient le sourire. Non, parce qu'ici, ils sont tristes, mais tristes. J'ai jamais vu des gens aussi tristes de toute ma vie. Pourtant, le bio, c'est sympa, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a des jours, on se croirait sur l'Aquarius. Hein. J'ai même une copine qui a fait une tentative de suicide. Eh si, ça me rend triste quand j'en parle. Non, rien, elle a pris toute une boîte de phytose nuit. Oui. Non, elle s'en est bien sortie. Hein. Elle est juste arrivée très très en retard le lendemain matin. Hein. C'est tout.
Vous adorez aussi, Fabrice Petit-Huguenin, lire les avis consommateurs sur les sites marchands ?
Ah oui, j'adore, je peux passer des après-midi à regarder ça, ouais. Mais ça me fascine.
Mais c'est bizarre quand même.
Ben non, parce que les gens déjà...
Mais ils se plaignent tout le temps.
Ouais, alors il y en a qui sont contents, mais quand même, il y en a qui vraiment qui se plaignent beaucoup, quoi.
C'est bah ouais.
Ce temps perdu, je trouve, à laisser critiquer. Des commentaires pas cool. Enfin, je trouve ça assez fou. Et donc, je voyais, là, je vais sur les super restos, par exemple, il y a des gens, je sais plus, c'était le Meurice, ou je sais plus, un truc, mais super. Puis... Fuyez, très décevant. Une déception pour le prix du menu. On nous a servi des légumes qu'on nous servait pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que c'est un peu des routes à baga, c'est à la mode les légumes oubliés.
Fabrice oui. Petugnin, vous faites rire vos clients en tant que graphiste?
Oui, je crois. Ouais.
Ouais.
Oui, je leur fais un peu des sketchs parce qu'ils me fatiguent et puis je leur dis. Si vous me fatiguez, je préviens, je vais te mettre dans un sketch parce que maintenant ils savent, ils ont découvert, ils vont suivre un peu sur YouTube et tout. Ils voient, je fais des blagues.
Donc vous faites vos propres affiches alors?
Oui.
Vous dites par exemple, ouais. Fabrice, il faut que je te dise que toute l'équipe marketing est extrêmement mal à l'aise avec le jaune que tu proposes pour l'invitation. Et là, quand on vous dit ça, vous dites, j'imagine, qu'est-ce que vous imaginez?
Ah non, mais elle me dit au téléphone, Fabrice, il faut que je te dise là, toute l'équipe marketing était hyper mal à l'aise avec le jaune sur l'invitation. Et moi, j'imagine des gens vomir, faire des sauter par les fenêtres. On est très mal à l'aise. Jaune.
Christine Béroux a des choses à vous dire.
Oui, j'ai beaucoup de points communs avec nos invités Stéphanie Jaou et Fabrice Petit-Huguenin. Car moi aussi, je suis une green girl, autrement dit une bio, autrement dit une chieuse. Et c'est pas facile de convaincre les gens autour de soi. Par exemple, Ben H, pour le bien de la planète, de ta santé et des animaux, que dirais-tu de manger moins de viande? Ouais, c'est pas facile. Les gens sont susceptibles. Alors, comme vous, Stéphanie, je veux bien faire. Comme vous, Stéphanie, je me heurte à des contradictions. Par exemple, vous en avez parlé, l'allaitement. Moi, j'étais là, ouais, l'allaitement, c'est ce qu'il y a de mieux, faut allaiter, blablabla. Mais quand ma fille a eu deux dents en haut et deux dents en bas, et que ça m'a fait comme si tous les jours, je devais mettre mon téton dans une agrafeuse, bon, on est passé de l'amour maternel à 50 nuances de lait, et là, j'ai revu certaines de mes priorités. Après, vous avez raison, écologiquement, l'heure est grave, mais les gens ne mesurent pas combien c'est grave. Au gouvernement, ils disent de ne pas prendre de bain et de faire du covoiturage. On dirait un médecin qui essaierait de soigner une triple facture ouverte avec de l'éosine et un pansement petit ours brun. Alors je sais pas si vous réalisez, il y a de moins en moins d'oiseaux. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, les oiseaux ce sont les animaux qui volent autour de nous et qui ne sont pas des Pokémon. Voilà. Comme vous Stéphanie, j'ai pris les choses en main. Je vais dans des magasins spéciaux, sans plastique, bio, petits producteurs. Il y a quelques temps, par accident, j'ai mis les pieds dans un Monoprix et j'ai assisté à une chose grave. J'ai appelé la sécurité, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Un malaise? Un vol? Une agression? J'ai dit, pire! Vous avez des tomates alors qu'on est en février? Alors c'est pas facile parce que j'ai une fille et bientôt il faudra qu'on ait la conversation sur le Nutella. Vous connaissez le Nutella, le LSD des 4-12 ans,
ouais,
et de Anne Roumanoff. C'est bourré d'huile de palme, une des principales causes de la déforestation juste après la langue de bois d'Edouard Philippe. Et puis d'un point de vue calorique, le Nutella est tellement riche que je suis étonnée qu'il ait rien donné pour la rénovation de Notre-Dame de Paris. Vous savez quelle est la différence entre un pot de Nutella et un discours d'Emmanuel Macron?
Non.
Dans l'un, il y a beaucoup de sucre, ça peut provoquer une sensation de lourdeur, et dans le Nutella, il y a des noisettes. Voilà. Non, Stéphanie, je suis tellement green que je suis... Je vous l'ai dit ou pas que j'étais végane?
Non, oui, pas encore. Enfin, nous, on le sait, mais...
Non, ça veut dire que je consomme rien qui vient des animaux. Je mange pas de viande, pas de poisson pour des raisons de cohérence. Je ne pratique plus la fellation.
Non.
Mais je suis comme vous. Non, mais c'est vrai. Quand vous avez faim, vous appelez Pizza Hut, It Sushi. Bah, moi, c'est pareil. Quand j'ai faim, j'appelle Interflora. Et tout va bien. Tout va bien. Merci de m'écouter parler de tout ça, notamment le végétalisme et les animaux, de ça, parce que la dernière fois que j'en ai parlé, ça s'est hyper mal passé. Les gens m'ont hué, ils m'ont balancé des objets. C'est la dernière fois que j'interviens au salon de l'agriculture. Et pourtant, ce sont des sujets importants, les sujets fondamentaux, des sujets actuels. Merci Stéphanie Jaou, merci Fabrice Petit-Huguenin de les évoquer. Qu'en penses-tu, Ben H? Ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Merci.
Notre invitée, c'est un peu l'Alicia Keys française. Elle s'est fait connaître du grand public avec sa voix. Elle a gagné Danse avec les stars. Elle a animé La Nouvelle Star. Elle enchaîne les albums, les tournées quand elle n'est pas sur le tournage de la prochaine saison de Profilage. Ce matin, elle vient nous présenter son nouvel album Agapé. La belle et très occupée Chaïm est avec nous ce matin sur Europe 1.
Bonjour, merci.
Bonjour Chaïm.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1.
Merci.
Alors je regarde la pochette de votre album, vous avez des cheveux impeccablement lissés, vous êtes assise nonchalamment sur le bitume, l'épaule dénudée, juste ce qu'il faut, un maquillage sophistiqué, mais qui fait genre vous n'êtes pas maquillée. Moi si je faisais la même pose que vous, les gens s'arrêteraient pour me donner une pièce.
Faudrait essayer.
Alors, comme toutes les chanteuses, elle nous fait croire que c'est comme ça que vous vous levez le matin.
Non, j'ai un petit magicien avec moi qui arrive assez tôt et qui met 2 heures à me préparer. Donc,
2 heures,
ouais, tout ça. Je vous assure, promis.
Il ne faut pas le révéler, c'est les
Mais non, mais là, vous êtes maquillée, là vous êtes...
Ah bah oui. Ah oui, je suis maquillée, je suis coiffée. Sinon, je me réveille avec les cheveux hirsutes et puis très, très fatiguée et cernée, comme tout le monde. Hein.
Ah, je suis hyper déçue, du coup.
Mais moi aussi, je suis maquillée et coiffée, ça ne rend pas pareil. C'est fou.
Mais t'as pas quelqu'un qui te coiffe pendant 2 heures.
Non.
C'est pour ça. Tu fais ça en 5 minutes.
Oui, je fais ça toute seule.
À la truelle.
Gratuit. Voilà.
Alors, Chaim, parmi vos nouvelles chansons, Amiens, c'est le masculin de Amiante. C'est des garçons qu'il vaut mieux pas garder chez soi trop longtemps.
C'est ça. Non, non, c'est un jeu de mots entre ami et amant. Voilà. Ouais. Donc, on parle de ça dans ce
titre.
C'est un
sex
avec,
friend, alors.
C'est un sex friend. On savoir si on passe la limite ou pas. Ça nous arrive souvent. Je pense que quand on est jeune, enfin d'ailleurs même pas jeune,
ah,
mais
même vieille, je vous
même,
assure.
Même moins jeune.
Des amiants.
J'ai des gens, on ne sait pas trop. Ouais.
Mais ça a été effectivement un peu le thème avec Joker qui pose avec moi sur ce titre. Et puis ouais, de parler des thèmes un peu universels, mais tourner autour de l'amour, c'est un peu le fil conducteur de l'album. Mais c'est un amour voilà, différent, on va dire.
Alors, vous dites, la première fois que vous avez fait une scène, vous avez été produit par le chanteur Camaro.
Oui.
Vous dites, c'était une très belle rencontre, parce que vous êtes toujours, c'est toujours lui qui écrit vos textes.
Alors, pas le dernier album, mais on est toujours, c'est ma moitié, quoi. J'ai besoin de lui pour prendre mes décisions, pour me sentir à l'aise, pour avoir confiance dans plein d'autres décisions, comme profilage, on en parlait tout à l'heure. Et ouais, c'est devenu un pilier dans ma vie.
Et alors, la première fois que vous montez sur scène, vous évanouissez.
Alors, je me suis pas évanouie, c'était en 2005, mais je suis tombée, mais malade. Mais comme, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été un combiné de tout ce qu'on peut avoir comme symptômes. Et incapable de monter sur scène, enfin, j'avais des vertiges, ouais. j'avais tout. Et je me dis, mais c'est pas possible, je suis pas tombée malade en un quart d'heure. Et finalement, j'ai dû avoir une piqûre d'un médecin pour que ça aille mieux et que je puisse monter sur scène.
C'est une crise d'angoisse.
Ouais, une crise d'angoisse, mais fois mille, quoi. Vraiment, j'étais vraiment pas bien. Et puis, une fois la scène finie, je pétais la forme, quoi. Donc, c'était vraiment l'angoisse qui a fait mon
corps réagir
comme
ça. Et maintenant, la scène vous fait toujours cet effet-là, Chaim?
Non, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est récent, hein. Ça fait 3 ans aujourd'hui que je monte sur scène et que je prends vraiment du plaisir. Avant, ça a été une torture et j'étais contente en sortant de scène, mais pendant, j'avais toujours ce stress, cette angoisse qui était anormale, quoi.
Et vous dites, il y a aussi cette anecdote où vous êtes tombé dans le public, et enfin vous êtes jeté dans le public et personne ne vous a rattrapé.
Non, ils m'ont rattrapé en retard, mais ça ne se voit pas sur la vidéo que ça. Mais oui,
c'est un truc que vous faisiez très souvent d'habitude.
Ouais, je l'avais fait. La première fois, c'était à Rouen et il y avait mon papa dans la salle. Ça faisait 3 ans que j'avais envie de le faire, mais il faut beaucoup de courage pour se lancer dans un public, donc je l'avais jusqu'alors pas
moi,
trouvé.
Moi, ils n'auraient jamais la force de me porter.
Ils le font quand on les prévient, quand on prépare les choses, chose que j'avais fait
moi,
avant.
Moi, je déteste cette idée de tous ces gens qui vous tripotent là.
Ouais, mais on n'y pense pas, en
vous n'avez pas essayé, Anne, vous savez pas.
Non, mais c'est génial, le saut, le plongeon, l'adrénaline qu'il y a.
C'est l'atterrissage.
Ouais, l'atterrissage quand il est loupé, c'est relou, c'est galère.
Donc là, les images ont fait le tour d'Internet quand vous avez vu.
Ah bah, c'est-à-dire
ça s'appelle faire une chime maintenant.
C'est même pas un slam, c'est faire une chime. Il y a eu plein de trucs dérivés, des tournées qui étaient très drôles, effectivement, au lendemain des attentats.
Vous avez voulu le refaire.
Ah bah, il fallait.
Le lendemain.
L'ego, et puis quand on tombe à cheval, il faut y remonter parce que sinon, on le refait plus. Mais le lendemain, quand il a fallu ressauter, bon, je me suis mieux préparé, mais
là, vous avez mis que des figurants en première
toute mon équipe
et maintenant vous faites toujours Chaim de sauter dans le
public. Non, parce que j'ai fait une tournée des théâtres la dernière, donc c'était dans
plus
des
compliqué.
Tables assises, etc., donc j'avais pas trop envie de me prendre des chaises dans les côtes, mais non, ça s'y prêtait pas.
Vous voulez pas essayer là, parce qu'ils sont venus pour ça.
Et puis ils ont l'air en forme, hein, pour la portée là.
Qu'est-ce que ça signifie, ce titre, Agapé, Chaim, de ce nouvel album?
Alors, c'est un terme grec qui signifie l'amour absolu, l'amour désintéressé, dans un sens très très large, finalement, l'amour de ses proches, de sa famille, l'amour qu'on peut porter à soi-même aussi. Et c'est un peu la notion et le noyau de cet album-là. Voilà, c'est le fil conducteur de tous ces titres, d'où aussi tous ces featuring avec des artistes que j'aime beaucoup.
Il y en a qu'on ne connaît pas. Moi, je ne connais pas VG Dream, c'était un
VG
groupe.
Dream.
Mais si, vous connaissez, Anne, sans le savoir, vous connaissez.
Oui.
Mais vous habitez en France, Anne?
Non, je sais pas qui c'est.
Celui qui a chanté la chanson.
Il a ramené la coupe
bleus.
À la maison, voilà. Mais oui. Vous l'avez entendu, vous l'entendrez encore pendant des années.
Elle a même dansé tout l'été là-dessus.
Mais oui.
Rappelez-vous au camping, Anne, quand vous étiez.
Il y a Youssoufa aussi.
Youssoufa,
ça, Youssoufa.
Vous connaissez Youssoufa, qui est sur Absolem. Il y a Kemler également qui est sur Absolem, qui a été un titre aussi et assez fort et assez déterminant pour moi et ma thérapie. Hein.
Vous dites, après 6 albums, on a envie de se renouveler. C'est ma plus belle récompense que de surprendre les gens. J'ai l'impression de tout réapprendre. C'est une confession avec beaucoup d'humour et de sérénité. Juste envie de dire les choses tout simplement et tout brutalement.
Eh ben voilà.
Mais pourquoi une thérapie, vous dites?
Parce qu'il y a des choses dans cet album particulièrement qui n'avaient jamais été dites auparavant. Comme sur Absolem, ces deux parties dites par Youssoupha et Kemmler, j'aurais pas pu les dire moi-même, j'aurais pas pu les écrire. J'avais peut-être du mal à assumer, en tout cas, et d'avoir quelqu'un qui les dit pour vous et qui sont très justes et très...
Vous dites que vous avez les larmes aux yeux quand vous avez lu ce qu'ils avaient écrit.
Ouais, j'ai mis du temps à m'en remettre, en fait, à le digérer. Et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est des vérités dites par des gens qui ne me connaissaient pas, en tout cas qui ne connaissaient que Chaim. Et je sais qu'ils ont fait un travail énorme à écouter mes interviews, à regarder tout ce que j'ai fait pendant des années. Et le fait que ces deux artistes et ces deux hommes comprennent mes silences, mes gênes quand il y en a eu en interview, mes doutes... Ça m'a fait mal, mais ça m'a fait du bien finalement. Voilà, on se rend compte que parfois les choses les plus douloureuses sont les plus salvatrices, et ça a été le cas pour cette chanson.
Mais vous parlez de vos échecs. Qu'est-ce que vous avez eu comme échec, Chaim? On a l'impression que votre vie n'est qu'un succès intégral.
Bah, elle a essayé avec moi. Je peux te dire que j'ai pas voulu. Hein.
Oui, à part Jean-Philippe Busini qui a refusé de tomber amoureux de vous, mais à part ça,
j'ai eu du mal à le vivre. Hein. J'ai mis du temps à m'en remettre. Mais
Retente ta chance.
Non, je suis très rancunière. Non, mais justement, je crois que cette vie a toujours pour moi été comme des œillères à ce qui allait moins bien dans ma vie intime et personnelle. Et il y a toujours une envie de cacher les choses à travers sa musique, à travers ce qu'on peut montrer sur scène.
Faire semblant d'aller bien, en fait.
Ouais, il y a des moments où on fait semblant, il y a des moments où ça vous fait vraiment du bien, même si c'est éphémère. Et puis quand on se retrouve après un Bercy rempli chez soi, seul à la maison, et qu'on vieillit, qu'on grandit et qu'on arrive à un certain âge. Et
vieillit,
des choses...
33 ans, moi j'ai 53 ans, arrêtez.
Oui, mais il y a des
vous
choses...
Ouais.
Mais il y a des choses, voilà, quand on voit ses potes autour de soi, il y a des grandes choses qu'on a accomplies et puis d'autres choses qu'on a un peu laissées de côté.
Parce ça vous quand vous avez des amis qui ont des enfants, c'est ça vous avez
par exemple, par exemple.
Mais ça va venir.
Bah,
vous
oui,
êtes encore fertile.
Peut-être pas, mais normalement, j'espère.
Vous êtes peut-être encore fertile.
Mais non, mais j'ai pas dit ça, mais à 33 ans, elle a encore le temps pour avoir des enfants.
Oui, mais c'est un vrai cap.
Voilà, exactement.
On se pose des questions.
Voilà.
Ah, on est au même stade, là, Chaim.
Pareil, le lendemain, on est déprimé. Bon, moi, j'ai plus 3 quand même déjà. Mais
je sors d'un mariage, là, c'est pareil, c'est horrible. Tout le monde a. Non.
Ah.
Bon, sinon, je serais pas en face de vous. Mais voilà, tout le monde a des enfants. Toi, on se marie, je comprends ces questions-là existentielles que vous avez oubliées. Vous les avez oubliées.
Non, mais une fois qu'on a des enfants, on a des enfants.
Ah bon, c'est tout.
Non, mais c'est le rêve.
Non, mais c'est très surévalué. Non, mais c'est super, j'adore.
C'est vrai qu'après la vie s'arrête. Hein,
mais non, mais c'est super d'avoir des enfants.
Pardon de vous spoiler, mais c'est pas.
Non, mais c'est merveilleux, les enfants. Mais
vous écoutez vos filles ou pas? Ça doit leur remonter le moral.
Là, si vos filles vous écoutent, il y en a une qui est en train de dire je vais te la mettre à l'hospice. Ça va être réglé.
On dit plus hospice, mais on dit l'EHPAD. Chaim, vous dites au sujet de votre mère, elle faisait des habits elle-même, cousait des robes le matin pour le soir et sortait en soirée pieds nus.
J'ai dit tout ça, mais j'ai beaucoup trop raconté ma vie.
Et vous dites que quand vous étiez petite, vous étiez une petite fille modèle. Chaim, vous vouliez pas déplaire à votre mère.
On était très liés. Elle m'a élevée pendant des années. Et je crois que cette
toute
relation
seule.
Aussi, ouais, toute seule. La relation un peu monoparentale fait que quand on est jeune, très vite, on est très responsable. On se rend compte un peu que la situation peut être difficile pour plein de choses, émotionnellement, financièrement, etc. Donc il y avait un truc où je voulais vraiment pas la décevoir, pas être un boulet finalement. Donc j'étais assez sage, ouais.
Et donc votre papa, vous l'avez pas vu pendant quelques années alors ?
Pendant quelques années, ouais.
Quelques années, 5 ans, 10 ans
Je sais même plus, je pense vers l'adolescent je l'ai retrouvé. Moi j'ai une mémoire qui s'efface assez vite, donc avant ma vingtaine j'ai du mal à replacer les dates et la chronologie, mais après c'était une période où quand on est ado, bah, on est un peu indépendant, on préfère voir ses potes et rigoler et aller en cours que de voir ses parents. Donc c'était un moment où je l'ai revu, après on s'est reséparés et on s'est retrouvés adultes et on a reconstruit une vraie relation.
Il est fier de sa fille ?
Ouais.
Oui. Et votre maman aussi ?
Bah, beaucoup trop.
Elle vient au concert pieds nus, votre maman, ou
non,
elle met des
non,
chaussures ?
Non, elle a trouvé des choses entre temps.
Chaim, après le bac, donc vous inscrivez en fac de langue et vous n'allez jamais en cours ?
Jamais. Mais en fait, j'y suis allée pour avoir la carte imaginaire moins chère. Et donc, il fallait m'inscrire. Et j'ai dû faire un ou deux cours en amphi, juste par curiosité, voir à quoi ça ressemblait. Et après, j'ai commencer mes cours de danse.
Et pour payer vos cours de danse, vous allez faire des petits jobs dans les boulangeries et les pizzerias.
Ouais, c'est
Alors comment vous faites? Parce que moi, si j'avais travaillé dans une boulangerie ou une pizzeria, je pense que j'aurais perdu un peu de tonicité.
Mais non, mais je faisais de la danse tous les jours. En fait, je faisais mes allers-retours entre Plaisir, qui est une ville des Yvelines, jusqu'à Paris, dans une école qui s'appelle Harmonique, à Bastille. Et donc, je devais travailler à Pizza Pie à l'époque et dans une boulangerie pour payer ma carte imaginaire, parce que même moins cher, il fallait la payer. Et donc, je prenais des cours de danse tous les jours. Quoi. À l'époque, je voulais être danseuse, je faisais ça à fond. Et en fait, en parallèle de la danse, j'ai rencontré des gars qui faisaient un peu de musique. Et c'est là où ça a commencé à être un peu plus sérieux dans la musique.
Alors, Chaim, on vous verra en 2020 dans Profilage.
Oui.
Une série sur TF1. Quoi?
ça a été une grosse. Là, on a terminé l'enregistrement des deux premiers épisodes. Donc, ça a été un mois intensif.
Vous avez combien de jours de tournage?
Le mois entier en ayant nos week-ends, quoi. Donc, c'est du 6h minuit pratiquement.
20 jours.
Voilà, tous les jours à fond.
Donc, c'est un grand rôle que vous avez.
Elle est héroïne. C'est le rôle d'Elisa, qui est psychocriminologue, et c'est une des héroïnes qui va se retrouver aux côtés de Rocher, de Thomas Rocher, qui est donc le protagoniste de la série.
Vous avez eu peur ou vous avez hésité avant d'accepter?
Non, j'ai pas hésité dans le sens où on m'a proposé de faire des castings. Et ça faisait longtemps que je voulais faire de la comédie, que j'avais commencé à prendre des cours. Et puis, je me suis dit, bon, je vais faire un casting pour avoir un avis professionnel, mais sans du tout penser à la finalité. Et puis du premier casting, j'en ai fait 2, 3, 4 et puis à la fin, j'ai été retenue. Et c'est là où je me suis dit, putain, mais... Qu'est-ce que je dis? Pardon. Et je me dis, mais dans quoi?
Alors,
je
vous
me
avez
suis
dit putain, quoi?
Non, j'ai pas dit putain. Et effectivement, où je me suis rendu compte que c'était le début, et j'ai eu après 3 semaines de coaching pour me préparer.
Intensif.
Et là, l'aventure a commencé. Le premier jour, j'étais dans un état, mais d'angoisse, comme le premier concert avec Camaro. Et puis finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir assez vite, malgré la difficulté de l'exercice, et ça a été incroyable, quoi. C'est de nouvelles sensations, c'est un nouvel exercice, j'ai appris plein de trucs et puis,
combien d'épisodes alors en tout?
Là, on en a fait 2 et puis il reste une saison entière à faire.
C'est-à-dire 6 épisodes
Je crois qu'il y en a un peu plus, 7 ou 8, quelque chose comme ça.
D'accord.
Voilà. Donc beaucoup de travail. Ouais.
C'est un tournant dans votre vie, ça?
Je sais pas, j'espère que ça va l'être. En tout cas, aujourd'hui, j'ai fait le taf, l'équipe était contente. Maintenant, c'est effectivement le public qui va choisir, qui va accueillir ou pas la nouvelle héroïne, quoi. Donc effectivement, j'ai hâte d'avoir la première projection et d'avoir les retours.
Ben H a hâte de vous parler, Chaim.
Oh oui, oui, oh oui, oui, oui. Tout tant de choses à vous dire, Chaim. Tant de choses à vous dire. Une chronique sera-t-elle suffisante, hein? Ou bien faudra-t-il y ajouter un verre, un dîner ou peut-être un week-end à Saint-Malo? Mais ne répondez pas tout de suite, je vous en supplie. Laissons agir le feeling. Parce que pour tout vous dire, Chaim, le coup de foudre que l'on est mutuellement en train de vivre tous les deux depuis que vous êtes entrés dans ce studio n'aurait pu jamais se produire. Hein, suite, malheureusement, aux tristes événements architecturaux de la semaine, je n'avais pas le cœur à venir faire le clown. Hein. Ma famille ayant été particulièrement touchée par le drame de Notre-Dame.
Votre famille est catholique, Ben H?
Non, mais j'ai des cousins portugais. Voir de la belle pierre dans ce triste état, ça les a touchés forcément. Alors hier soir encore, j'ai appelé Anne pour lui dire d'une voix fragile que j'allais devoir m'absenter. Là, elle me dit, dommage, on reçoit Chaim. Ce à quoi je réponds logiquement, ok, faut être là à quelle heure? Et me voilà face à vous dans ce studio après bientôt 15 ans à vous voir sur mon écran. Hein. Cupidon n'a plus qu'à armer sa flèche. Chaim, bonjour. Alors, je sais très bien ce que vous vous dites, Chaim, hein, première question, mais qui est donc ce charmant chroniqueur aux cheveux foufous et au corps visiblement victime de malnutrition? Seconde question que vous vous posez, même si l'amour a ses raisons que la raison ignore, a-t-on au moins quelques points communs, lui et moi? Hein, ce à quoi je vous répondrai oui. Hein, j'ai lu votre bio, on a tellement de points communs, Chaim, par exemple. Vous êtes chanteuse, danseuse, hyper sportive, vous prenez soin de vous, hygiène de vie au top. Bon, à part ça, ouais, tout est pareil, quoi, tout est pareil, même si j'aime à rappeler que dans le milieu de la danse, hein, très personnellement, on m'appelle le danseur de jive. Par exemple, là, on est pareil, c'est sur votre timidité d'enfance, hein, sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, et c'est vrai qu'on le voit ce travail. Hein. Quand je vous ai vu au Energy Music Award en bustier transparent, je me suis dit, oh, elle a bossé la timidité, là, ça a bien avancé, hein, ce sujet. Et attention, hein, je fais référence à ce remarquable haut que je n'oublierai jamais, hein, mais si vous avez toujours eu cette image sexy, vous n'avez jamais franchi la ligne jaune, hein, jamais vulgaire, jamais tombé dans le trash pour vendre plus d'albums, parce que de toute façon, Chaim, elle en vend des tonnes, des albums. Et si je vous ai pas convaincu ce midi avec cette fausse assurance, hein, si je ne vous ai pas du tout séduite, eh bien la prochaine fois, je changerai de méthode, Chaim, et on réglera tout ça sur un jive. Merci de m'avoir écouté.
Bravo, merci. J'ai beaucoup trop envie de voir la démo de Jive, du coup. Là.
Oh là, et en écrivant cette phrase, je me suis dit, putain, si elle demande ça, je suis bien dans la merde.
Et ben voilà.
Vous faites souvent draguer, Chaim?
Non, plus du tout, parce que je pense que les gens me reconnaissent assez vite et du coup passent vite à autre chose, mais non, ça fait longtemps que je me suis pas fait draguer.
Ah
non,
oui,
on va pas se mentir, il y a mieux, quoi.
Et voilà.
Alors 2015, vous avez été la cible d'un duo entre Damso et Booba avec un titre Pinocchio qui était quand même extrêmement sexiste. Et là, vous leur répondez. Et ça, c'est bien, ça fait du bien. Vous dites, ah là là, ils m'ont déçu. Ah là là, tu veux mon cul, va faire la queue derrière Damso.
Voilà, c'est drôle. c'est bien dit, c'est sans haine aucune et c'était mérité surtout.
Et surtout, la réponse de Damso, il a dit que c'était une blague, mais c'est pas acceptable, on est d'accord.
Non, bah non, c'est pas une blague. Et puis surtout qu'à un moment donné, c'est tellement facile aujourd'hui de dire des propos sur des femmes, sur des jeunes filles également qui paraissent de plus en plus banales, mais qui sont hyper vulgaires, hyper crues et hyper sexistes, qu'il y a un moment donné où je me suis dit non, j'ai pas envie de laisser passer.
Vous avez raison. Et vous avez recroisé Damso et Booba depuis ?
Non, je les ai jamais. Alors Booba, on s'est croisés il y a très longtemps dans un autre contexte, mais Damso, on s'est jamais rencontrés, d'où le va faire la queue derrière Damso, parce qu'il y a aucune chance et parce que ouais, il y a en plus il me connaît pas, donc à la limite c'était tellement facile, tellement gratuit que j'ai attendu 3 ans, mais il fallait en tout cas que j'y réponde. Mais non, j'ai pas eu de nouvelles, pas de texto, rien.
Pas d'excuses.
Ah non, bah surtout pas.
Même pas un rendez-vous au Duty Free d'Orly, rien.
même pas.
En plus, vous avez fait de la boxe, vous, alors vous auriez pas peur de
ouais,
frac.
Non, je m'y serais pas frotté quand même.
Non. Quand ça va pas, Chaim, vous avez une phrase que vous dites tout le temps, c'est quoi ? Viens, on s'en fout.
Ah ouais, ah mais ça c'est un peu mon leitmotiv, c'est viens, on s'en fout quoi. De façon polie, on peut le dire de façon différente, mais ouais, peu importe ce qu'on entend, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe si ça fait peur, si c'est risqué, viens, on le fait quoi. On regrettera après ou pas, mais on fonce surtout, ouais, carrément.
Bah vas-y, viens, on s'en fout.
Notre invité qui vient de nous rejoindre, le cuisinier d'Europe 1.
Cuisinier rapide. Exactement. Ou précoce, je sais pas comment.
Laurent Mariotte.
Bonjour.
Laurent Mariotte pour ce livre Mieux manger toute l'année, 365 recettes, conseils et astuces aux éditions Solar. Donc c'est plein de conseils.
C'est une recette par jour et plein de conseils aussi pour faire ses courses, quels produits acheter, bien suivre les saisons, quels sont les légumes de saison, les fruits de saison. Vous qui cuisinez énormément, je sais que vous adorez ça.
Vous la connaissez.
Donc,
bien.
Voilà.
Galette d'Halloween pour le 31 octobre.
Oui.
2 rouleaux de pâte feuilletée, bon ça va, on les achète toutes faites.
Voilà, exactement, surgelées.
500 grammes de courge musquée, mais qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ce que
bah,
c'est.
La courge musquée de Provence, c'est une des courges les plus courantes que vous trouverez. Vous la trouvez déjà découpée en grande surface ou partout chez votre maraîcher, c'est hyper facile à trouver.
Ah bon ?
On rentre dans la saison des courges. Il y a plein de. Il y a plein de
courges. Je suis moi-même une
courge. Vraiment,
je suis une grosse courge. Moi.
Le petit marron.
Il y a que ça des courges. On en voit dans les Marseillais à Ibiza, les Marseillais à Cancun.
Une à 2 cuillères à café d'épices, à pain d'épices. Bon, ça doit.
Ça, ça doit être facile.
2 œufs. Bon, ça va. Voilà, plus un pour la dorure avec le jaune d'œuf. 20 centilitres de crème liquide. 6 cuillères à soupe de sucre roux. Mais c'est la courge, quoi.
Mais quoi, la courge ? Alors, vous voulez un truc ? J'en ai fait hier soir, je vais vous dire la vérité. Le potimarron, vous connaissez le potimarron qui est
mais
gros.
Mais je ne sais pas le couper.
Ouais, c'est ça, c'est que c'est dur à couper.
Il faut le couper, il ne faut même pas l'éplucher. La peau se mange, donc vous le coupez en quartier avec un grand couteau. Vous la mettez au four avec des gousses d'ail, de l'huile d'olive et un bleu du Lisieux, une fourme d'Ambert, ce que vous voulez, même un roquefort. Vous mettez ça au four 40 minutes et c'est fini. Et
vous avez beaucoup de recettes végétales aussi, Laurent Mariotte. Il y a des ateliers lait végétaux pour fabriquer son lait végétal.
Exactement, des amandes que vous faites tremper. Oui. Tout simplement
simple,
avec
de fabriquer son lait soi-même
avec des amandes.
Lait végétal.
Du lait avec des amandes.
Du lait sans lait en fait.
On n'a pas le droit de les appeler lait justement. Il faut dire boisson végétale, c'est interdit par la législation européenne de les appeler lait.
Mais
si on le fait soi-même chez soi, on fait ce qu'on veut, on peut l'appeler lait.
Oui, ça vous pouvez, vous avez le droit. Vous avez le droit de marquer étiquette de lait sur votre. Sur votre
non, mais c'est très simple.
Je veux bien que ce soit bon, mais c'est pas évident de traire une amande. Hein.
Non, ça c'est dur.
Faut trouver le prix.
Faut qu'elle soit assez charnue.
19,90€, 365 recettes, je trouve que c'est un bon rapport qualité.
Je suis d'accord.
Parce qu'il est épais.
Il est épais.
Et il y a
volé,
plein de conseils en fait pour faire ses courses aussi et quels sont les produits à acheter, lesquels faut-il éviter aussi parce qu'il y a quand même aujourd'hui avec les produits ultra transformés.
Vous êtes contre les plats tout préparés.
Oui, et les produits ultra transformés complètement.
Ah ouais.
Je suis pour les produits bruts, pas de problème que ce soit surgelé, que ce soit comme vous voulez, mais brut, produits bruts et cuisiner soi-même.
Et aller au marché aussi, vous dites. Il faut pas aller au supermarché.
Il faut aller au marché, il faut emmener les enfants au marché. Il faut les faire sentir, il faut les faire toucher. Même si vous ne savez pas comment cuisiner tel ou tel produit, vous voyez les couleurs, vous voyez les formes, les odeurs, les parfums, vous achetez et en revenant à la maison, entre les bouquins, entre ce que vous trouverez sur internet, vous aurez des idées de recettes pour cuisiner, ça j'en suis sûr.
C'est vrai que sur les marchés, ça laisse des souvenirs quand on est enfant, exceptionnels, les odeurs.
Absolument. Les personnages de marché, moi j'adore ça, les gens qui sont là dès le matin.
10 kilos Laurent, 10 kilos.
Mais bien sûr, mais c'est magnifique. C'est ces gens qui sont passionnés, il y a plein de petits producteurs.
Vous allez à quel marché Laurent Mariotte ?
Moi je vais au marché du boulevard Richard Lenoir où il y a un producteur de l'Essonne qui est magnifique. C'est un des derniers marchés populaires parisien, effectivement, du côté de la Bastille, qui est très grand. Il y a encore un tripier, il y a des poissonniers. Et vous trouvez des produits qui sont vraiment abordables, je vous assure.
Et bio ?
Et il y a du bio. Alors,
très peu sur les marchés.
Il y a du bio, mais alors sur le marché.
Vous dites qu'il faut se méfier des bio de supermarché parce que souvent c'est fabriqué n'importe où, n'importe comment.
Ça vient de l'autre bout de la planète, souvent. Il y a bio et bio. Si c'est pour faire acheter du bio qui vient de l'autre bout de la planète, qui a une empreinte carbone complètement délirante et que c'est flétri, qu'il n'y a plus de vitalité, qu'il n'y a plus de vitamines, c'est aucun intérêt. Moi, je préfère mon producteur local qui est sur le marché Richard Lenoir, qui traite quand il faut parce qu'effectivement la météo l'oblige parfois à traiter, mais qui a une variété de produits de grande qualité.
Donc, pas forcément du bio, mais savoir d'où ça vient.
Non, en revanche, quand on utilise les pots, quand on utilise les zestes pour les agrumes, il faut acheter bio parce que toutes les cochonneries se foutent dans la peau. Donc évidemment, quand on fait des zestes d'agrumes, on achète un citron bio. Mais il y a aussi des pesticides dans le bio qui sont des pesticides tolérés de toute façon.
Et la mâche sous vide, c'est bien ?
La mâche sous vide, c'est mieux que rien. Vous voudriez qu'elle soit digérée déjà peut-être, non ? Mais non, la mâche sous vide, pourquoi pas ? Elle est lavée dans des bains de chlore, donc c'est vrai que vaut mieux acheter sa mâche qui est produite en ce moment.
Dans des bains de chlore, ah bon ?
Bah oui, il y a de la javel et du chlore pour laver tout ça, bien sûr.
Ah, c'est pour ça que vous avez les dents blanches comme ça.
Laurent Mariotte, vous avez changé de vie à 36 ans quand vous avez été à l'école Ferrandi. Vous en aviez marre d'être à la télé à ce moment-là. Vous êtes dit, je vais me tourner vers la cuisine, je vais ouvrir un restaurant.
J'avais envie d'avoir un vrai métier, ouais. C'est presque un peu ça. C'est vrai que j'ai fait le tour de la télé. J'ai commencé sur Canal J, qui était une chaîne jeunesse. Voilà, après Interville sur TF1, des jeux. Et c'est vrai qu'à la fin, je tournais un petit peu en rond. Donc, j'ai décidé de passer un CAP de cuisinier, mais pour ouvrir un restaurant avec des copains au départ. C'était ça l'idée, quoi. Ouais. Et puis, quand j'ai passé mon CAP, en fait, je me suis rendu compte de tout ce que j'apprenais, les taillages, les sauces, les grands classiques de la cuisine française, le navarin, le pot-au-feu.
En 6 mois, vous passez un CAP.
Oui, c'est intensif. Hein. Dès le matin à 8h, vous êtes les mains dans le derrière d'un poulet pour le vider et pour le travailler. Donc, c'est intense. Mais c'est vrai que je n'étais pas du tout reprogrammé pour refaire de la télé ou de la radio derrière. J'étais parti pour ouvrir vraiment un restaurant avec des copains et je n'ai jamais ouvert ce restaurant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon restaurant, c'est la télé et la radio où j'aime bien mettre en avant les artisans aussi, beaucoup, les producteurs locaux. On vit une période qui est un petit peu compliquée au niveau de l'alimentation. Donc, il faut accompagner les gens pour qu'ils mangent bien et qu'ils mangent mieux parce qu'on n'a jamais autant parlé de bien manger et de produits de saison.
Oui, c'est vrai que ces dernières années.
Mais on n'a jamais autant acheté de plats préparés et les Français cuisinent de moins en moins.
C'est une question de temps aussi, c'est vrai.
Oui, mais ça, c'est un faux prétexte.
Ouais, donnez-nous une recette ultra rapide pour paresseux.
Ah bah, alors là, c'est la saison de la Saint-Jacques. Elles sont abordables, les Saint-Jacques, entre 5 et 8 euros le kilo. Vous les achetez en noix dans un petit beurre mousseux, 30 secondes par côté, la Saint-Jacques. Si ça, c'est pas du rapide. Avec des endives, pareil, c'est la pleine saison de l'endive. Ouais. Juste braisées, comme ça, coupées et fendues en 4 dans la longueur, dans un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile d'olive juste à côté. C'est quelque chose qui vous prend moins de 20 minutes, cuisson comprise. Et un petit peu de jus d'orange si vous voulez déglacer tout ça. Le jus d'orange va adoucir l'amertume, je vois venir, qui ne vous plaira pas dans l'endive, Anne Roumanoff. Et elle va enrober aussi la Saint-Jacques qui est douce, qui est sucrée. Donc ça, c'est moins de 20 minutes, cuisson comprise. Le fait de cuisiner, quand même, c'est agréable. C'est une petite bulle. C'est comme quand on fait du sport, ça détend. Mmh. Ça console, comme on dit aussi, la cuisine, quand on a un chagrin, quand on est de mauvaise humeur. Ça fait du bien. Je ne parle pas de passer des heures en cuisine, on est tous d'accord qu'on bosse et que c'est compliqué le soir. Mais une petite demi-heure, à peine, je vous ai sorti même des recettes qui prennent moins d'une demi-heure. La première émission que je faisais, c'était 24 minutes chrono. C'était une émission où je faisais une recette en moins de 24 minutes chrono, cuisson comprise. Et j'en ai fait plus de 300. Donc vous voyez, il y a plein de produits. Là, on rentre dans le mois des produits tripiers. Là, je sens que je vais vous plaire. Alors, l'onglet est un produit tripier. C'est une viande rouge, c'est magnifique. Un onglet qui est cuit comme ça avec une petite tombée d'échalote, c'est sublime. Et des petites pommes de terre cuites au four, les pommes de terre grenaille, avec pareil du romarin, de l'huile d'olive et des gousses d'ail.
Ça, c'est... Ah oui, ça, j'arrive jamais à faire des pommes de terre au four. Elles sont toujours crues.
Non, mais c'est vrai que c'est difficile de savoir quelle pomme de terre.
Vous piquez pour savoir si c'est cuit, c'est pas compliqué.
Non, on met des petites pommes de terre grenaille dans le four.
Le grenaille, c'est un calibre. C'est comme les rats, si vous voulez. C'est des petites pommes de terre.
Et on met le four à combien ?
180 degrés.
Mais il faut éplucher les pommes.
Non, avec la peau, pas
mais
du tout.
Mais tu les rinces quand même.
Mais oui, vous les brossez. Il faut avoir une brosse à légumes chez soi. Vous les brossez, huile d'olive, gousse d'ail.
Une brosse à dents, si on n'a pas.
Romarin, vous allez galérer avec la brosse à dents, ça va prendre du temps.
Ouais, et puis, il ne faut pas l'avoir
utilisé. Gousse d'ail, romarin.
Gousse d'ail, romarin, huile d'olive, un petit peu de fleur de sel par-dessus tout ça. Vous pouvez mettre du chorizo si vous avez envie aussi. 40 minutes à 180 degrés et c'est tout. Et là, vous ne faites rien d'autre pendant
Je rajoute un peu d'eau parce que sinon c'est trop sec.
Non, pas besoin. S'il y a de l'huile d'olive et le sel va faire ressortir l'eau de végétation de la pomme de terre. Donc il n'y a pas besoin de mettre de l'eau là.
Bah, j'en mets quand même.
Laurent Marieux et atterré par notre niveau culinaire.
Non, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est rassurant, justement.
C'est un livre très, très bien fait et on apprend plein de choses. Et quand on est nul en cuisine, on apprend des choses. Et même si on est doué, on apprend des choses aussi.
C'est le but du jeu, c'est pour tout le monde.
Voilà. Et puis, on rappelle votre émission à cet horaire magnifique, tous les samedis à 11h sur Europe 1.
11h midi et demi avec Jean-Luc Petit-Renaud, Olivier Pouls, Yves Candebord, une belle bande de bons vivants. Et on commence sur les marchés, justement. Ensuite, on va voir les producteurs locaux et on cuisine. Et on a un journal de la cuisine avec Marion Sauveur, où on a une belle bande, on est très contents. Ouais.
Merci Laurent Marion d'être passé nous voir.
Merci.
11h30, le meilleur d'Anne Romanoff sur Europe 1.